Je vais juste, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns, refaire un résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière. Désolée pour les répétitions, mais de toute façon, je pense que c'est un message qui est tellement important qu'il peut être répété, honnêtement. Et puis, bon, tout le monde sait que je radote, donc c'est pas un problème. Alors, on avait vu dans les premiers chapitres des juges, en fait, on était sur le début du chapitre 3, et on avait fait un petit retour sur les chapitres 1 et 2, et on avait expliqué à quel point ces histoires, ce sont pas des histoires qu'on va appliquer comme ça à la lettre, mais ce sont des exemples qui sont là pour nous faire réfléchir, pour nous équiper et pour nous avertir. Donc j'avais cité l'exemple des fables de La Fontaine, hein, qui ont un petit message à chaque fois, et ça ne dérange personne. Et ben c'est un petit peu la même chose avec les histoires de l'Ancien Testament, des histoires qui ont un message pour nous équiper et pour nous avertir. On avait dit aussi que l'homme, Dieu non plus, et l'homme, le cœur de l'homme n'a pas changé. C'est pour ça que ces histoires continuent à avoir un impact pour nous. Et on avait dit, c'était important dans toutes ces histoires de chercher le message de Dieu. Donc l'histoire des juges, on avait dit qu'il fallait toujours se rappeler quand on lit ces textes-là que Dieu en avait après les Cananéens parce que leur iniquité, leur péché avait atteint son comble. C'est-à-dire que Dieu avait usé de patience pendant des années et des années et des années. Et en fait, il devenait de plus en plus cruel, de plus en plus méchant et il y a un moment où Dieu a dit « c'est fini ». Et vous savez, la patience de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. La patience de Dieu, c'est formidable de penser qu'il est aussi patient avec nous, avec nos défauts, etc. Mais il y a des moments aussi où Dieu dit « ça suffit ». Et où sa patience a une limite. Parce que, voilà, nous, on atteint le comble de de désobéissance, par exemple. Hein. Et parfois, Dieu dit que sa patience est terminée. Et c'était le cas avec les Cananéens. On avait cité donc Deutéronome 9 et Genèse 15 hein, qui parlent de cette patience de Dieu, l'iniquité qui arrive à son comble. Et du coup, la patience de Dieu trouve un terme. Alors, on s'est dit aussi, c'est bien toutes ces histoires, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Et on avait vu que dans le premier chapitre des juges, quand on lit attentivement le texte, on s'aperçoit qu'ils avaient des grandes victoires. Déjà, même un petit peu avant, hein, Jéricho, c'était pas rien. Des grandes victoires, tout un tas de victoires, puis un petit échec. J'avais dit, c'est comme un petit grain de sable, c'était le début de la fin. Puis une succession d'échecs, à tel point qu'ils arrivent à la fin où ils sont assujettis aux Cananéens. Et là, c'est embêtant. Il y a une tribu qui est assujettie. Mais pour les autres, ils se contentent de vivre avec les Cananéens au lieu de les chasser et de leur faire payer des impôts. Alors bon, j'avais fait une petite plaisanterie en disant que c'était peut-être du bon management, mais c'était pas ce que Dieu avait demandé. Et c'était d'autant plus dangereux qu'un jour ou l'autre, il pouvait y avoir des révoltes et la tendance était inversée. Et c'était les Hébreux qui étaient assujettis et qui payaient l'impôt. Ça s'est terminé comme ça. On verra ça au cours du temps, particulièrement dans les juges, mais aussi après. Dieu avait promis, lui, parce qu'il avait fait une alliance avec l'homme, il avait promis qu'il les délivrerait, qu'il leur donnerait ce pays, qu'il chasserait leurs ennemis, et c'est exactement ce qui se passe au début du livre des juges. Les Israélites, on leur demandait simplement de ne pas faire d'alliance avec les Cananéens et de renverser leurs autels. Je vous avais expliqué. Alors évidemment, à notre époque, ça peut sembler un petit peu intolérant. On ne se voit pas aller renverser les autels d'autres religions parce que bon, on vit pas tout à fait dans la même époque. Ceci étant, je pense que s'il y avait en France un culte qui sacrifie autant d'enfants que l'ont fait les Cananéens, je pense qu'effectivement, leurs autels seraient renversés, peut-être par le gouvernement, même pas par les chrétiens. Et les gens seraient en prison parce que le sacrifice humain était faisait partie, et particulièrement le sacrifice des enfants. Donc je pense que même à notre époque, ça ne serait pas accepté. Alors, il y avait un problème qui revient constamment dans les juges, c'est celui des générations. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on va s'attarder aussi ce matin. Parce qu'en fait, les gens qui ont vécu avec Josué, qui sont arrivés dans le pays, qui ont fait la guerre, ceux-là, il n'y avait pas de problème. Ils savaient qui était l'ennemi, ils savaient quoi faire. La deuxième génération, c'est celle qui a vu les œuvres de Dieu. Elle n'a peut-être pas combattu, mais je ne sais pas, ils avaient 8 ans, 10 ans. Ils ont vu, ils ont compris que Dieu était extraordinaire, que Dieu leur avait donné un pays merveilleux. C'était fini de tourner dans le désert, c'est formidable. Pays promis, formidable. Et ceux-là, ils ont continué à comprendre et à chasser les Cananéens devant eux comme Dieu l'avait demandé. Puis est arrivée une troisième génération. Ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas vécu les choses, ils ne les avaient pas vues non plus. Et ce qui fait mal, c'est le verset qui dit « ils n'ont pas connu Dieu ». Oh, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les parents? Qu'est-ce qu'ils ont transmis? Parce qu'ils l'avaient vu, les grands-parents l'avaient vu, les parents l'avaient vu, avaient vécu, enfin les grands-parents l'avaient vécu, les parents l'avaient vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les enfants? Ils se sont sans doute installés dans le confort. Ça devait être vachement confortable après des années de désert de se dire « Oh là, on s'installe ». Mais ça fait quand même mal au cœur. Ils n'ont pas connu Dieu. C'est quoi connaître Dieu? C'est pas seulement avoir entendu parler. C'est pas seulement avoir vu. C'est avoir une relation d'alliance de cœur avec Dieu. Et vous savez qu'en hébreu, le verbe « connaître » c'est celui qu'on utilise pour un mari et une femme. C'est une connaissance très proche, très intime. Et cette connaissance de Dieu, il ne l'avait plus. Et on va en reparler tout à l'heure, mais autant le dire tout de suite aussi. Je peux me répéter, ce n'est pas grave. Connaître Dieu, c'est vraiment le problème de toutes les générations. Et surtout quand on n'est plus en temps de réveil. Je pense à Jean-Baptiste, donc Jean-Baptiste, il est la quatrième ou cinquième génération après le réveil qu'il y a eu en Normandie, où son arrière-arrière-grand-père était là. Il faut penser si derrière les grands-parents, les parents, les enfants n'ont pas une connaissance personnelle de Dieu, c'est fini. Et je me réjouis, franchement, moi c'est un grand sujet de joie de voir Jean-Baptiste avec ce feu et cette vie qu'il a. Et je le cite parce que, voilà, il se trouve que son arrière-grand-père était mon pasteur, donc j'ai vu le déroulé. C'est formidable, ça me réjouit de penser qu'il y a encore des gens qui connaissent Dieu à la troisième, quatrième, cinquième génération. Pas seulement avoir entendu parler, mais qui connaissent Dieu. Et j'étais tellement contente quand Sonit m'a raconté qu'il est arrivé là pour le don d'une vie en ayant perdu la voix. Et c'est lui qui chantait, un solo, c'est ça. Et il a vu cette foi avec le groupe de prier pour que sa voix revienne, pour qu'il puisse faire ce solo. La vie est toujours là, il connaît Dieu. Alors, il a certainement des défauts, je ne le connais pas assez pour connaître tous ses défauts. Mais là, on n'est pas dans une question de perfection, hein, surtout pas, jamais. Mais connaître Dieu, connaître personnellement et le connaître suffisamment pour savoir qui répond, qui agit. Et je vous donne cet exemple parce que ça me fait tellement plaisir, parce que j'ai tellement vu d'enfants, petits-enfants, de pasteurs qui n'ont même plus la foi en Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est quelque chose qui déjà donnait beaucoup de soucis à ma mère et on va en reparler tout à l'heure. Le problème, c'est que Dieu ne s'impose pas. Quand il voit que son peuple ne le connaît plus, il ne va pas s'imposer. Mais par contre, il ne va plus chasser les ennemis. Et il va falloir apprendre la guerre. C'était le verset qui nous avait retenu la semaine dernière. La génération qui n'avait pas connu la guerre, il va falloir qu'elle apprenne la guerre. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout dans la vie chrétienne. Mais alors pas du tout. Mais il faut apprendre la guerre. Apprendre la guerre, donc on a vu, on va revoir tout à l'heure les ennemis que nous avons nous aujourd'hui. Parce que la cohabitation avec les Cananéens va complètement polluer la moralité, la religion, la politique et la famille. Pensez bien, quand on vous demande de sacrifier votre premier bébé, ça pollue quand même la moralité et la famille. Hein. Voilà, plus tout le reste. Et sur l'ensemble du livre des juges, on avait remarqué la dernière fois, ce fameux cycle qu'on va retrouver tout au long de la Bible et qu'on retrouve peut-être aussi dans notre vie. Rébellion, ça entraîne la ruine. Et après, si les gens veulent bien, la repentance, va amener la rédemption, le rachat et le repos, enfin, donc la paix. Et ce cycle-là, on voit dans le livre des juges, on avait expliqué la dernière fois, ça revient régulièrement. Et quand les gens se repentent et crient à Dieu, eh bien Dieu suscite un personnage qui va faire la guerre, entraîner l'armée, encore la guerre, et ils vont être sauvés et ils vont avoir des années de repos. Le problème, c'est que dans le livre des juges, on s'aperçoit qu'au début, il y a 80 ans de repos, puis 40, puis un peu moins, puis après plus du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a un endurcissement qui augmente. Alors ça fait mal au cœur. Comment est-ce que nous, humains, on peut s'endurcir à ce point ? Et ben, c'est compliqué. Je pense que c'est lié à la connaissance de Dieu. Si on connaît Dieu, on s'endurcit beaucoup moins, je pense. Mais moins on le connaît, plus on va s'endurcir. Parce qu'on va gérer les choses avec notre cerveau. Et je vous avais fait l'exemple la dernière fois en parlant du management du pays. Si je gère ça avec mon cerveau, je dis, mais attends, c'est pas logique, quoi. Hein, il faut mieux les laisser là. Ils vont travailler pour nous, ils vont nous payer des impôts. La logique humaine, elle marche pas comme celle de Dieu. Dieu dit non, vous n'arriverez pas à tenir, vous serez contaminés, il faut les chasser. Je les chasserai devant vous, mais allez-y. Pff, dur, dur, dur. Et la Bible nous dit, verset 19 d'ailleurs, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père. Donc, parfois, j'aime bien des gens qui disent, mais les choses vont s'arranger. Et si on regarde la vie, la moralité en France, depuis la dernière guerre, ben, ça ne s'est pas arrangé. Tout le monde, je me souviens quand j'étais jeune, dire mais ça va s'arranger, il y aura un retour du pendule là, il y aura un mouvement de pendule, ça va s'arranger. Hein, je me souviens, c'était le frère aîné d'André qui disait ça, ça va s'arranger. Eh ben, c'est pas parti pour s'arranger. Mais nous, on n'a pas des juges qui viennent faire la guerre comme ça et qui nous laissent en repos, mais on a un sauveur. Et ça, c'est le juge parfait. Je vous rappelle que juge, dans l'Ancien Testament, ça voulait dire non pas celui qui fait la justice seulement, mais aussi celui qui est un chef militaire et un chef politique. Mais nous, on a un sauveur qui est bien supérieur à ces juges. Ces juges humains étaient limités. D'ailleurs, ils étaient très imparfaits pour certains d'entre eux. Moi, je vous avouerai que j'aime vraiment pas Samson. J'aime bien Gédéon. Bien sûr, j'aime beaucoup Déborah, c'est normal. Mais ils étaient imparfaits, tous. Certains plus que d'autres. Mais nous, on a un sauveur qui est parfait. Donc là, on n'a pas d'excuse. On a un sauveur qui fait cette rédemption quand nous, on est en ruine. On a un sauveur qui rachète. Et vous savez, la notion de rachat dans la Bible, c'est tellement important. Alors le mot officiel dans la Bible, c'est rédemption. Encore une fois, c'est des traductions qui disent pas grand-chose, mais ça veut dire rachat. Et on raconte toujours cette petite histoire à propos du rachat, de ce petit garçon qui avait fabriqué un magnifique bateau qui le lance sur une rivière. Il avait passé des heures et des heures et des heures à fabriquer ce bateau et puis il y tenait, c'était sa création. Et manque de chance sur la rivière, le bateau fiche le camp et il n'arrive pas à le rattraper. Et quelques années plus tard, en passant en ville, il voit son bateau dans la vitrine. Et il coûte fort cher. Donc il rentre et dit, mais monsieur, c'est moi qui l'ai fabriqué, est-ce que je peux le... Ah, il dit, non, moi, je l'ai acheté à quelqu'un qui est venu me l'apporter. Donc voilà, il coûte tant et c'était fort cher. Et ce gamin a dû économiser centime après centime l'argent de sa tirelire pendant je ne sais plus combien de temps pour racheter son bateau et le nettoyer, le refaire tout beau, tout propre, parce que vraiment, il avait vécu entre-temps. Et cette image, elle nous parle de ce que Jésus a fait pour nous. Lui, il nous rachète. Hein, même si la vie nous a emmenés sur un chemin bien, bien pourri, avec toutes sortes de problèmes et tout, on a été abîmés, déformés. Mais lui, il nous rachète, si on veut bien. Le problème, c'est que le bateau, il n'avait pas son mot à dire. Mais nous, oui. Et si on veut être racheté, alors il nous rachète, il nous refait. À neuf. Et je dis toujours, Dieu est le seul capable de prendre un vase cassé et de le rendre plus beau qu'avant. Si vous avez déjà essayé de recoller de la porcelaine, moi j'ai renoncé maintenant, c'est vraiment pas beau, puis ça se redéfait, ça passe pas au lave-vaisselle, plein de problèmes. Donc on jette. Mais Jésus, il jette pas. Il refait et il arrive à vous refaire un vase plus joli que le premier. Je sais pas comment, c'est pas possible humainement. Mais lui, il peut. Il peut. Et on voit combien d'exemples de gens qui ont été cassés par la vie. Cassés, cassés, cassés. Mais s'ils ont bien voulu que le Seigneur les reprenne en main, ils sont plus beaux qu'avant. Et ça, hein, vous en connaissez tous. On en connaît tous, des gens qui sont plus beaux qu'avant, parce que Dieu les a refaits, parce que Jésus a pris soin d'eux et les a restaurés. C'est ça le rachat. Hein, quand on parle de rédemption, pensez à ce petit bateau, pensez à ce que Dieu fait de notre vase. Dans la rédemption, c'est ça. Moi, c'est tout ça qu'il me dit, le mot rédemption. Je déplore un peu que ce soit un mot maintenant qui ne dise plus grand-chose. Mais les juges, eux, ils n'ont pas réussi à réformer durablement le peuple, ce qui fait que plus qu'un cycle, c'est une spirale. Ça descend, ça descend, ça descend. Jésus, lui, nous sauve, nous pardonne et transforme notre vie et transforme surtout notre vision du monde. Si seulement on veut bien le connaître. Alors le connaître, comment, ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, on a une première solution, c'est la Bible. C'est lire la Bible. Et vous savez, je le dis tout le temps, mais il faut qu'on s'y mette. Il faut lire la Bible pour soi-même. Pas se contenter d'un verset par-ci, d'un verset par-là, mais lire sa Bible pour soi-même. Le christianisme ne pourra pas survivre si on ne connaît pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on la lise pour nous-mêmes. Et c'est un must si on veut avancer avec le Seigneur. Ce n'est pas grave quand on ne comprend pas. Passez à la suite. De toute façon, personne ne comprend toute la Bible. Je ne crois pas qu'il y ait un seul humain, même le meilleur théologien. Hein, on a à côté à Vaux-sur-Seine ce que nous, on trouve un des meilleurs théologiens, Monsieur Blocher. Et parfois, moi, j'admire son humilité quand il dit « On n'a pas de réponse. On ne sait pas. » L'humilité ? Ben oui, il y a des textes de la Bible. On ne sait pas. Et si un grand théologien comme Monsieur Blocher dit ça, je me dis « Moi aussi, je peux le dire. Hein, tranquille. Hein. J'en suis loin. » Mais c'est pour dire, n'essayez pas de tout comprendre, mais essayez de voir quel est le message de Dieu pour moi dans ce texte. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui ? Il y a eu des vies transformées, il y a eu des gens sauvés, simplement parce qu'ils ont cherché dans la Bible, qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui ? Donc, vivre sa vie chrétienne sans lire la Bible, c'est un no-no, pas question. Vous pouvez pas, c'est dangereux en plus, parce qu'on va faire ce que je disais tout à l'heure, on va raisonner avec sa tête, et on va dire, mais oui, mais Dieu a-t-il vraiment dit ? Hein ? Ça vous rappelle quelque chose, Dieu a-t-il vraiment dit ? Ce que Satan a dit dans la Genèse. Et alors là, on est fichu. On va commencer à faire notre Bible à nous et du coup, on va plus connaître Dieu. On va se faire une image d'un Dieu. Alors, vous savez, ça va soit être le Père Noël pour les gens qui sont optimistes et pour les gens pessimistes, ça va être le Père Fouettard. Mais pas le vrai Dieu. Donc, attention, restons fidèles sur sa parole pour le connaître. Le connaître aussi par la prière parce que c'est une expérience de prier et de voir sa prière exaucée. C'est une expérience fondamentale. Et si on ne le vit pas au quotidien, c'est difficile. Bon, parfois Dieu dit « attends ». Ça, on n'aime pas. Mais c'est aussi une des réponses à la prière. Ce n'est pas notre prière favorite. La prière favorite, c'est « oui ». Mais bon. Et puis, faire confiance à Dieu. C'est comme ça, le connaître. Sa parole, la prière, la confiance à Dieu. Et c'est difficile de faire confiance quand tout autour de nous nous dit le contraire. Hein. Alors, nous aussi, on avait vu qu'on avait des ennemis à combattre. Sans aucun compromis. Et nous, ce n'est pas des gens. Jamais des gens. Le combat, il se fait, on a vu, contre Satan. Et la solution, vous vous souvenez, on a vu la semaine dernière. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. On ne combat pas le diable. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent que nous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira. Et vous vous souvenez, Jésus, comment il a combattu Satan dans la tentation. Il est écrit. Aïe. Donc là encore, il faut connaître ce qui est écrit. Si on ne le connaît pas, on va être mal. Ensuite, notre chair, c'est-à-dire notre être naturel. Oh là, pour lui, c'est un peu chaud. Hein, c'est crucifier la chair. Considérez-le comme mort, dirait la maison d'Élie. Ça, c'est plus dur. Et il nous faut l'aide de Dieu. Et puis, le troisième ennemi, c'est surtout le monde, l'esprit du monde, ses tendances. Alors, ça peut être le succès à tout prix. Hein, on considère que quelqu'un, s'il a beaucoup d'argent, une belle voiture, une belle maison, etc., il peut passer ses vacances aux Bahamas, je ne sais quoi. Alors, c'est bien, il a réussi sa vie. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais l'infirmière qui a soigné les gens consciencieusement toute sa vie, pour moi, elle a réussi sa vie. Et pour Dieu, elle a réussi sa vie. Hein, la personne qui a été fidèle dans son travail chaque jour, pour aider les autres, pour faire ce que Dieu lui demandait, pour rendre un bon témoignage au travail. Pour moi, elle a réussi sa vie. Et Dieu ne veut pas qu'on vive dans le dénuement permanent, ce n'est pas ce que je dis. Hein. mais les critères de réussite du Seigneur ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les critères de réussite dans le monde, c'est souvent sur le mensonge, la tricherie. Et puis, le gros problème du 21e siècle, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les psychologues aujourd'hui qui disent que c'est le narcissisme. Moi, moi et moi d'abord. Et c'est une civilisation un peu nouvelle. Bon, les gens ont toujours été un peu égoïstes, hein, ça, de toute éternité, ça a existé. Mais on arrive dans une civilisation où le critère de tous les choix, c'est moi. Bon, à tel point que parfois, même des parents qui aiment leurs enfants vont faire des choix qui leur plaisent à eux sans considérer le bien-être des enfants. Et pourtant, ils aiment leurs enfants. Mais on arrive tellement à être dans une civilisation, c'est moi, moi, moi. On oublie même les gens proches, on oublie les enfants, on oublie des choses comme ça. Parce que bah, c'est comme ça, c'est ce qu'on nous dit partout, c'est ce que les pubs vous disent, parce que vous le valez bien, voilà. Parce que vous le valez bien. Mais c'est grave, parce qu'on perd une des dimensions que Dieu nous a données, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors évidemment, dans des siècles passés, il y a des gens qui ont aimé leur prochain plus qu'eux-mêmes, et ce n'est pas du tout ce que Dieu demande, mais comme toi-même. Donc il faut s'aimer, mais aimer les autres aussi. Donc là, l'esprit du monde nous pose des tas de problèmes. La notion de plaisir aussi comme critère numéro un. Ah, ça t'apporte du plaisir ou pas? À tel point que... C'est rigolo, c'est pas complètement faux, mais je ne sais pas si les dames, peut-être pas les messieurs, mais les dames ici ont déjà regardé des vidéos de... Comment elle s'appelle, Conne-Marie? Marie Conne-Marie? La méthode Conne-Marie pour ranger sa maison. Alors, amusez-vous. Voilà. Amusez-vous à regarder ça une fois ou l'autre. Non, c'est une japonaise, je crois. Hein? Marie Kondo. Voilà, la méthode Conne-Marie, Marie Kondo, voilà. Alors, très drôle, parce qu'elle a ses critères. Bon, alors en plus, c'est marrant d'ailleurs comment la tolérance à la religion se montre aussi dans ces émissions-là, où elle prie je ne sais qui, avant. En tout cas, c'est pas l'éternel Dieu, ça c'est clair. Et puis, elle remercie les choses qu'elle va jeter avant de les jeter. Etc. Il y avait un excellent article dans un journal anglais que tu m'as passé, Julie, là-dessus. S'il y en a qui sont intéressés, je l'ai gardé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle dit les choses que vous devez garder, le premier critère, c'est ce qui vous apporte du bonheur. C'est ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte de la joie. Le critère, c'est votre joie, votre bonheur, votre plaisir. Pardon ? Non. Et donc... c'est intéressant sur l'esprit de notre époque. Je garde pas forcément ce qui m'est terriblement utile ou voilà ce qui est, mais ce qui m'apporte du plaisir. Bon, en fait, après il y a des nuances, mais ça m'a frappée parce que c'est l'esprit de notre époque. Si ça me fait pas plaisir, c'est pas bon. Ah, il y a des tas de choses dans la vie. Est-ce que ça nous fait plaisir d'aller à l'école? Bon, moi j'aimais bien, mais c'est pas forcément tout le monde. Est-ce que ça nous fait plaisir? Alors ça, j'aimais pas faire des devoirs le soir. Et tous ceux qui font de la formation, il y a des exceptions, et tous ceux qui font de la formation comment continue, c'est pareil, enfin, oh, on se retrouve à faire des devoirs, on se retrouve à écouter des cours, etc. Ben oui, mais le critère, c'est pas ce qui me fait plaisir, là. C'est, je veux passer un examen, je veux avoir une promotion, je veux avoir un meilleur salaire, je veux avoir un boulot plus intéressant, puis le Seigneur va m'aider. Enfin bon, vous voyez, le plaisir, c'est pas... forcément toujours le critère. Mais malheureusement, dans notre civilisation, ça le devient. Et puis après, il y a tous ces esprits mystiques. Bah, j'en parlais pour la méthode de Conne-Marie. Là. On prie, on ne sait pas trop quoi. Et puis les gens trouvent ça normal. C'est bizarre. Il y a un esprit mystique qui se balade. Et puis il y a les cultures, etc. dans le monde. Donc, en fait, ça nous fait beaucoup de choses à combattre. Hein. Satan, en se soumettant à Dieu, en lui résistant, notre chair. Et puis l'esprit ambiant, qui est vraiment bizarre parfois, et qui ne nous entraîne vraiment pas à aimer Dieu en tout cas. Maintenant, vous avez le problème aussi de l'avortement, où, oh là là, je n'ai pas envie de m'acheter une maison plus grande, et je n'ai surtout pas envie d'acheter une voiture plus grande, donc avortement. Je veux dire, les critères sont terribles, terribles. Et nous aussi, on a nos sacrifices humains. Je ne sais pas combien on a de sacrifices humains par an en France, j'ai vu le chiffre. Merci Philippe. 200 000. Donc ça fait aussi pas mal de squelettes qui sont jetés dans des fosses. Ça fait réfléchir. Nous aussi, on arrive à une civilisation de sacrifice humain. Ah, oh, mais elle est bien. C'est moins trash, hein. C'est moins gore, ou tout au moins quand on n'assiste pas, etc. Donc, faire attention à notre civilisation, elle n'est pas géniale, géniale. Alors, Jean 17, versets 14 à 18. Jésus prie et dit à Dieu, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc qu'est-ce qui peut nous aider? Encore une fois, la parole de Dieu. Pas notre cerveau, pas notre raisonnement, mais la parole de Dieu. Éphésiens 6, 12 dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Matthieu 6, 24 dit « On ne peut servir deux maîtres. » On ne peut servir Dieu et Mammon. Dieu de l'argent. N'aimez pas le monde, 1 Jean 2,15. Et puis ce verset qui dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà ce qui souille l'homme, Matthieu 15, 19. » Tout ça sont les problèmes qu'on a à combattre. Alors les motivations, c'est souvent le problème. Pourquoi je fais les choses? Que parfois on peut faire des choses bien, mais on a à combattre les motivations. Le pourquoi. Par exemple, on peut servir Dieu, ça vous l'aurez dans, je crois que c'est dans une épître de Paul, avec un zèle amer. On peut jeûner, moi j'ai vu des gens malheureusement jeûner pour comptabiliser le nombre de jours de jeûne qu'il avait de plus que son copain. Yes, c'est embêtant quand même. Bon, Dieu est bon, je pense qu'il répond, mais c'est embêtant. C'est embêtant. On ne jeûne pas pour comptabiliser les jours de jeûne. Et pour dire à qui veut bien l'entendre, j'ai fait tant de jours, tant de jours. On peut évangéliser aussi pour avoir une plus grande église que le pasteur d'à côté. Bon, bah tant mieux, comme disait Jésus, au moins la parole de Dieu est prêchée. Mais bon, c'est pas la motivation. Et c'est important, comme dit Olivier, le pourquoi on fait les choses. Le pourquoi on fait les choses, c'est hyper important. On peut faire des choses excellentes, mais en fait, derrière, c'est la chair, c'est le moi, c'est l'esprit de compétition du monde, ou parfois les deux. Des ennemis, tout ça, c'est des ennemis qu'on est appelé à combattre. Et c'est pas facile parce qu'ils sont en nous, ils sont autour de nous, et c'est pas toujours facile de les reconnaître. Mais si on les accepte sur notre territoire, c'est-à-dire dans notre vie, on fera des compromis, on fera forcément des compromis avec toutes ces choses que j'ai citées, toutes ces choses qui viennent du cœur, etc. On fera des alliances et on choisira le mauvais maître parce que Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ce n'est pas possible. Il y en a un qui sera servi et l'autre qui sera renié, c'est fatal. Alors combattre, apprendre la guerre, mais alors comment? Alors là, il n'y en a peut-être pas beaucoup aujourd'hui, ma classe est quand même représentée. Pour les enfants de chrétiens, c'est un problème. Alors, vous pouvez être enfant de chrétien, première génération, deuxième ou troisième, mais si vous avez été, vous êtes toujours de toute façon enfant de chrétien, c'est un petit peu plus difficile. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans une famille? Vos parents ou vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, arrière-arrière dans le cas de ton gendre, ils vivent dans le monde, ils vivaient dans le monde, avec le poids de leurs problèmes, leur culpabilité, parfois leurs addictions, leur souffrance morale, la maladie aussi, parfois la maladie physique. Et un jour, quelqu'un leur a parlé de Jésus. Donc là, je parle de la toute première génération. Quelqu'un leur a parlé de Jésus. Mais non, il n'est pas resté sur la croix, mais il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui, il peut répondre à tes prières, il peut pardonner tes fautes, il peut te guérir et il peut te donner sa paix. Et là, il s'est passé un miracle dans la vie de cette première génération. Quand ils ont demandé sincèrement pardon à Jésus, ça a été comme la sortie d'Égypte. Waouh ! Cette libération, plus de culpabilité. Jésus a tout pardonné. Guéri psychologiquement souvent, guéri physiquement aussi. Et c'est dommage, je voulais faire témoigner le mari de Roselys, mais je crois qu'il est reparti au travail, parce qu'il a vécu une guérison miraculeuse extraordinaire quand il a rencontré Jésus. Je pense qu'on fera le faire témoigner une fois. Je pense que personne ne connaît son témoignage, comment il a été guéri miraculeusement. Ah, donc il faudra le faire, parce que c'est très beau. Donc vous voyez, cette première génération, il y a une nouvelle naissance, il y a un cœur nouveau, il y a des yeux neufs sur la vie. C'est quelque chose de formidable. Donc cela, vous pouvez leur raconter tout ce que vous voulez. Jésus est vivant. Vous pouvez leur faire croire n'importe quoi. Il m'a pardonné. Vous pouvez essayer de leur dire, oui, mais Dieu n'exauce pas toujours. Je l'ai vécu. Cette génération-là, il n'y a pas trop de soucis. Alors, il y en a parmi nous qui font partie de cette première génération. C'est super. Là où ça se gâte, hein, c'est après. Après la deuxième génération, quelquefois, elle a vécu aussi avec ses parents, hein, en tournant dans le désert un petit peu. Elle a vu un petit peu autre chose. Et elle n'a pas forcément vécu ce changement drastique de la première génération. Ah, et là, la deuxième génération, il va falloir qu'elle apprenne aussi à veiller et prier. Parce que jusqu'à présent, le problème, c'est qu'elle a, la deuxième génération, elle a bénéficié de la carte de crédit de ses parents. Et ça, on l'oublie. Pourquoi ils ont du mal, nos enfants ? Enfin, moi, je suis déjà une enfant de chrétien. Parce que, quelque part, nos parents se sont battus pour nous. On est malade, ils prient. On a des soucis à l'école, ils prient avec nous. Et puis, Dieu résout des problèmes. Dieu nous aide. Dieu même fait tourner le mal en bien. Alors ça, on est impressionné, hein ? On le voit étant petit. Mais bon, on a cette cloche de protection de papa et maman qui aiment le Seigneur et qui prient pour nous. Première génération, elle est là et elle prie. Et là, nous, la deuxième génération, on se sent protégé. On se sent bien. Il y a les parents au-dessus qui prient. Et comme dit souvent André, quand ma mère est décédée, on a senti la différence au niveau de la prière. Bon, après, l'Église prend le relais. Les membres de l'Église ont prié pour nous. Mais on le sent, hein, quand les parents ne sont plus là. Je ne veux pas vous faire peur, les enfants, mais c'est la vérité, hein. Et il faut que nous, on reprenne le flambeau. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans la mesure où on se sent bien, on se sent protégé, la deuxième génération, on se sent quand même en sécurité, eh bien, on trouve que c'est sympa dans le monde dehors, parce qu'on n'y a pas vécu. Et on voit le doré, on voit la liberté, on voit le côté sympa. Bien sûr, parce que nous, on n'y a jamais vécu. Nos parents, ils ont des souvenirs de ce qu'ils ont vécu dans le monde. Et, la délivrance que Dieu leur a apportée. Des addictions. Je me souviens, mon père, qui, quand il est venu au Seigneur, il fumait pas mal. Et on lui a dit, tu pries, le Seigneur va te délivrer de la cigarette. Il a prié, le Seigneur l'a délivré, voilà. C'est pas compliqué. Chez lui, ça s'est passé très simplement, à tel point que quand il était dans le train, il cherchait les compartiments non fumeurs, parce que ça lui donnait envie de vomir, la fumée de cigarette. Vraiment, une bonne délivrance, voilà. Première génération, ils ont vécu ça. Par contre, la deuxième, si je fumais une cigarette de temps en temps. Bon, j'y ai pas pensé ça parce que j'aime pas, mais je veux dire, ça peut arriver. Pourquoi ? Puis pourquoi ils font tant de cirque pour une cigarette ? Et pourquoi je pourrais pas profiter de leur fête ? Pourquoi j'irais pas en vacances avec ces gens-là ? Pourquoi est-ce que j'irais pas voir ce film ? Et puis alors le truc de la deuxième génération, mais enfin, pourquoi il faut lire la Bible ? Alors ça. Pourquoi il faut lire la Bible ? Et pourquoi il faut prier tout le temps comme ça ? Et puis en plus, quand on prie, on se répète. Et c'est pas logique de se répéter. Ah ! Pourquoi ? Alors j'ai pensé à une petite histoire. Elle a été inspirée par des livres que j'ai lus sur les hommes préhistoriques. Et imaginez l'homme préhistorique qui voit le feu de la foudre qui tombe sur un arbre sec. Wow ! Ça alors, ça chauffe. C'est sympa. Ça éloigne les bêtes sauvages. Et il prend le bois qui brûle encore, il le met dans une grosse poterie et il l'emmène dans sa caverne. Enfin, il raconte que ça s'est passé comme ça, mais c'est le message derrière qui est intéressant. Alors, il va le garder. Parce que ce feu, c'est intéressant. Ça chauffe, ça éloigne les animaux. Puis éventuellement, on peut peut-être mettre un peu de viande dessus. Ça sent bon, ça n'a pas l'air désagréable. Et puis, Le lendemain matin, c'est mort. Ah mince ! Et il va s'apercevoir avec le temps que la prochaine foudre, là, il va faire attention. Il faut protéger le feu de la pluie, du vent. Et puis, il faut peut-être prévoir un peu de bois sec pour que ça continue à brûler. C'était pas évident pour la première fois. Moi, je me mets à sa place. Qui lui disait que ça s'arrêterait ? Donc, il a compris que ben, il faut alimenter le feu si on veut qu'il continue. Alors, seulement, le bois mouillé, il a vu que ça marchait pas. Donc, il faut penser à ramasser du bois quand il fait sec, le mettre à l'abri pour qu'il reste sec et en avoir un petit tas pour que dès qu'on a un peu de feu, on peut remettre du bois. Et alors, on va pouvoir faire cuire ses aliments. Il faut entretenir ce feu et on aura du feu. Si on ne l'entretient pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, qu'est-ce qui se passait d'ailleurs ? Il n'y a encore pas, il y a quelques siècles, quand il n'y avait pas encore des allumettes, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas inventé plus tôt, eh bien, on allait chez le voisin chercher des braises. Donc, si on ne lit pas sa Bible, si on n'entretient pas sa vie chrétienne par soi-même, il faut tout le temps aller chez le voisin chercher du feu. Et ça, c'est dommage. Parce que le voisin, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et puis, il va vous raconter les trucs de la Bible comme il peut. Et vous n'aurez pas le témoignage direct de la parole de Dieu. Donc, il faut entretenir ce feu. Ce feu de la première génération, il faut l'entretenir. Alors là, c'est la mauvaise nouvelle hein, pour les nouvelles générations. Je ne dis pas que tout est à refaire, mais oui, quelque part. La repentance, c'est aussi pour vous. La transformation, c'est aussi pour vous. Et l'entretien, c'est terriblement pour vous aussi. Alors, ça fait partie des problèmes de la deuxième génération. La génération d'avant a dit, nous, on a vécu la sortie d'Égypte, on a vécu la libération, on a eu la victoire sur nos ennemis, même quand c'était absolument pas prévisible. C'est fini les coups de fouet des addictions et de la culpabilité. Et puis la deuxième génération, elle grandit sous la protection de Dieu, sous la bénédiction des parents. Et puis certains vont considérer que c'est quand même plus intelligent d'aligner sa vie sur celle du Seigneur. Parce qu'ils sont pas idiots, et puis c'est quand même mieux, hein. Mais franchement, chasser les Cananéens, entretenir le feu comme ça, est-ce que Dieu a vraiment demandé ça ? Est-ce que c'est pas... Et puis arrivé à la troisième génération, là ça se gâte vraiment. Parce qu'elle a pas combattu, elle a pas vécu la sortie d'Égypte, elle a pas vu les changements puisqu'elle n'était pas encore là. Et l'idée de se battre alors contre les Cananéens, c'est fini là. Elle est complètement sortie. Bah, d'ailleurs, vous avez remarqué, hein, on vit un petit peu avec eux, puis c'est pas plus mal. Hein. Ah, et puis bon, c'est pas parce qu'on va s'associer à leur fête que... Hein, et puis, d'ailleurs, regardez le village d'à côté, ça se passe très bien. Seulement, ils ne voient pas que dans le village d'à côté, il y a une révolte qui se prépare, les Cananéens vont prendre le dessus, et c'est les Hébreux qui vont être assujettis. Si la troisième génération ne fait pas le boulot. Ah ! Dieu dit qu'il laisse des Cananéens, qu'il ne les dépossède pas, pour que les nouvelles générations qui ne connaissaient pas la guerre puissent l'apprendre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les nouvelles générations. Il faut apprendre la guerre. Donc, tous les jeunes de ma classe, je leur ai déjà parlé là-dessus, il faut apprendre la guerre. Pas facile. Parce que Dieu va laisser dans nos vies ou dans notre entourage des difficultés, des conflits, des injustices. Oula, à l'école, vous risquez d'en avoir, et dans le travail aussi. Des injustices, il y en aura. Des trahisons, des problèmes, des blessures, des échecs. Et de véritables ennemis, parfois, des gens qui vous détestent, pas facile à gérer. Différents types de Cananéens qu'il va falloir chasser du pays, mais avec les armes de l'esprit, pas à coups d'épée. Hein. Et ça, c'est vraiment difficile. Et peut-être ce qui est le pire, c'est quand l'ennemi nous fait croire qu'il ne nous attaque pas. Qu'il nous fait croire qu'il y a un terrain neutre, que le monde spirituel est neutre et on peut dormir sur ses deux oreilles. Mais t'as pas besoin d'entretenir le feu. Y a pas de souci. Quelqu'un t'en redonnera. Le monde spirituel est neutre. Y a pas de danger. Tout va bien. Dors. T'occupe pas. Et comme dans le film de... C'est la jungle, là. Fais-moi confiance. Eh oui, c'est ça. Et là, c'est très efficace. Le diable, je trouve, endort très très bien la nouvelle génération. T'as une bonne moralité, tu fais ce que tu peux, t'inquiète pas, y a pas de souci. Tes grands-parents, ben, ils ont vécu quelque chose de spécial. C'est pas pour toi, c'est pour les générations passées. La sortie d'Égypte, c'est passé depuis longtemps, on n'en parle plus. Et pourtant, sans une expérience personnelle avec le Seigneur, sans cette expérience de pardon, de vie nouvelle, de nouvelle naissance, bah ça va être chaud, hein, la vie. Parce qu'elle va plus avoir de sens. Et ça va vite devenir une religion. Parce que ce sont ces expériences personnelles avec Dieu qui vont permettre aux nouvelles générations de vivre des belles choses avec Dieu. Et que la vie chrétienne va devenir intéressante. Alors là, moi, j'aime pas ça du tout. Mais c'est vrai que quand on est malade ou qu'on n'est pas bien, qu'on voit les réponses à la prière, quand on a des soucis à l'école, qu'on n'y arrive pas à certaines matières, c'est tellement agréable de prier, de voir qu'on s'en sort. C'est toutes ces petites expériences du quotidien, mais l'expérience de base. Seigneur, je te demande pardon. Et je sais que tu me pardonnes. Et s'il n'y a pas cette vie, si c'est toujours dans un joli flou, le diable est très content, il va nous endormir. Et puis surtout, il nous empêchera, puisqu'on dort, de veiller et prier. Et ça, c'est le côté un peu désagréable de la vie chrétienne. On ne peut pas s'endormir. Il faut veiller et prier. Et si le diable ne peut pas nous choper d'un côté, il va essayer d'un autre. S'il ne peut pas par les moyens gentils, il va essayer par les méchants. S'il n'y arrive pas par les méchants, il va essayer la séduction. Veillez et priez. Veillez et priez. Dépendre de Dieu. Oh, vous vous rendez compte? Je ne peux pas prendre mes décisions comme ça, clac, clac. Non, dépendre de Dieu. Oh, dépendre de Dieu. S'attendre à son aide et se dire, Seigneur, par mes moyens, je n'y arrive pas. Ouh, c'est pas facile, hein? C'est pas facile pour tout le monde de dire, Seigneur, par mes propres moyens, je n'y arrive pas. Et même à 12 ans, 13 ans, 14 ans, venir près du Seigneur et dire, Seigneur, j'y arrive pas. Ouh, c'est pas si simple qu'on le croit. Parfois, on pense que les jeunes, oh, ils ont un cœur d'or, les enfants, ils sont super. Ouais, mais c'est pas facile. C'est pas facile de venir vers le Seigneur et dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Par contre, s'ils sont capables de faire ça à 14 ans, alors ils vont avoir une belle vie chrétienne derrière. Parce qu'ils pourront continuer toute leur vie à dire, Seigneur, sans toi, j'y arrive pas. Et quand on est capable de dire, Seigneur, sans toi, j'y arrive pas, alors la vie est réussie d'avance. Parce que c'est lui qui va faire pour nous. Hein, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Alors, si vous avez 12 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ou 60, mais si vous êtes une deuxième, troisième ou quatrième génération de chrétiens, demandez au Seigneur une expérience personnelle. Si vous avez l'impression que votre vie est tombée un peu dans une routine, demandez au Seigneur une expérience personnelle. Pardon, salut, guérison, intervention particulière de Dieu, demandez une expérience personnelle à Dieu. Si vous sentez que vous êtes dans une religion, que, ok, mon arrière-grand-père ou ma mère ou sera, ah oui, ils avaient une expérience forte de Dieu, mais moi, bah, je vis, quoi, et puis tout va bien. Demandez une expérience personnelle à Dieu. Et là, la vie chrétienne va prendre tout son sens. Et peut-être vous avez déjà eu une expérience personnelle, mais le diable a un petit peu mis du brouillard là-dessus, c'est loin, je sais plus. Eh bien, retournez vers le Seigneur. La Bible dit, revenez à moi. Et il y a des moments dans la vie où on est obligé, ça aussi, veiller, prier, entretenir le feu et revenir à Dieu. Terriblement important. Et demandez-lui une expérience personnelle, peut-être une sortie d'Égypte, peut-être il y a quelque chose dans votre vie qui vous bloque et vous le savez très bien. Seigneur, je veux que tu débloques ça. Par ton sang, tu as versé ton sang à la croix pour moi. Je veux pas rester un chrétien bloqué. Je veux pas rester un chrétien qui roupille. Je veux pas rester un chrétien qui en a marre. C'est vrai, parfois on en a marre, hein? Mais le Seigneur le sait et il ne nous condamne pas. Mais c'est vrai que ça arrive. Et là, on a vraiment besoin de revenir vers le Seigneur. Et le Seigneur agit de façon étonnante. Moi, j'ai trop aimé le témoignage de Jean Samuel. Je suis désolée de citer toujours cette famille-là, mais vous inquiétez pas, j'aime tout le monde. Mais c'est parce que c'est récent. Et Jean Samuel, quand il a donné son témoignage de baptême, et qu'il a dit... qu'il a pleuré dans le train parce qu'il a senti l'amour de Dieu. Ça, c'est une expérience personnelle. Vous savez, sentir l'amour de Dieu, c'est pas forcément évident, hein? Oh, comme on est des bons chrétiens puis qu'on est à l'église, on va dire oui, mais moi je sais que Dieu m'aime. Mais sentir l'amour de Dieu au point d'en pleurer tout seul dans son train,
Pour moi, ça m'a énormément parlé. Je me suis dit ça. Dieu est vivant encore aujourd'hui. Et il parle. Et il est capable de parler à un jeune homme dans son train et qui s'y attendait peut-être pas du tout. Donc, prions pour ce genre d'expérience. Enfin, je ne prie pas pour que vous pleuriez tous dans le train, mais qu'on ait tous une expérience perso comme ça, où on sent quelque chose. Pour vous, ça sera peut-être autre chose. Ça sera peut-être rire, d'ailleurs. Mais oui, peut-être que vous avez besoin de vous détendre et que Dieu permettra que vous ayez un rire thérapeutique, là. Où vous... Pourquoi pas ? Moi, je suis... Si ça vient du Seigneur, moi, ça ne me dérange pas. C'est... Le problème, c'est ce que vous avez besoin. Seigneur, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'un renouveau. J'ai besoin d'un nouveau regard. J'ai besoin de joie. J'ai peut-être besoin de pleurer sur mes péchés aussi. So what? Allez-y. Allons-y. Allons-y. Demandons quelque chose. Et c'est là qu'on va pouvoir dire, je connais Dieu. Je ne suis plus cette génération qui ne connaît pas Dieu, mince. Mais je vais être cette génération qui connaît Dieu. Et la Bible va prendre vie à vos yeux. La louange va aussi prendre beaucoup plus de sens. Les priorités vont se mettre en place et même l'obéissance à la parole de Dieu sera beaucoup plus facile. Parce que vous savez, parfois, on obéit à Dieu en serrant les dents. Ce n'est pas très agréable, mais ça arrive. Hein. C'est-à-dire, je le fais parce que tu me l'as dit, mais... Mais quand on a une expérience plus profonde avec le Seigneur, c'est différent. On peut obéir sans serrer les dents. Alors, je vous avais dit la dernière fois que... Pour les juges, l'étude des juges et de ce texte va être un peu une clé pour ce qu'on va faire après, puisqu'on va entamer la royauté de David, ça y est, hein, ça a eu les morts, hein, vous vous souvenez l'année dernière. Et donc maintenant, on va rentrer dans la royauté de David. Et je vous avais dit, il y a des clés pour comprendre la vie de David dans les juges, et ça, il y en a quelques-unes ici. Dans 1 Samuel, donc juste après les juges, on avait vu, dans les deux années passées, je crois, ou trois, que très vite, il y a eu des guerres après les juges. Au moment d'Élie, le prophète, puis après avec Samuel aussi, quand Samuel était prophète. Il y avait aussi des défaites, quand le peuple avait compté sur ses forces. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui se rappellent un peu. Et surtout quand le peuple avait une foi superstitieuse dans l'arche. « Oh, on va emmener l'arche à la guerre. Youhou ! J'emmène ma Bible et tout va bien. » Non, la superstition, ça, il faut pas compter là-dessus. C'est pas de Dieu et ça ne nous aide pas. Ça nous met dans une sécurité complètement fausse. Et ils pensaient qu'ils réussiraient en emmenant l'arche dans la guerre. Catastrophe. Ils ont été ratiboisés. Donc, attention, dans les guerres, de compter sur le Seigneur et pas sur ses forces, pas sur des choses superstitieuses. Ils ont eu aussi des victoires quand le peuple s'attend à Dieu, quand il s'est repenti. Vous vous souvenez, le peuple pleurait tellement fort que les ennemis se sont demandé ce qui se passait, ils ont eu peur. Quand le peuple se repent, il y a des victoires. Donc ça, c'est pour la période de Samuel. Puis, le premier roi, Saül. Donc là, je prépare ce qu'on fera la semaine prochaine. Le premier roi Saül a aussitôt arrivé au pouvoir, il doit se battre. Ah, tiens, comment ça se fait ? Bah oui, parce que tous les ennemis n'avaient pas été chassés. Et voir comme ils étaient gentils, ces ennemis, hein ? Ah, ça pour les gens ou les jeunes qui pensent encore qu'il ne fallait pas tuer les Cananéens, il ne fallait pas les chasser. Eh bien, ce qu'ils avaient proposé à une ville, c'était de crever un œil à chaque homme et de les soumettre à un impôt. Et comme ça, ils auraient la vie sauve. Pourquoi crever les yeux ? Symboliquement, d'ailleurs, ça parle. Qu'est-ce que l'ennemi fait ? Il ne va pas nous aveugler toujours complètement, mais il va restreindre notre champ visuel. Vous savez, quand vous voyez qu'avec un œil, vous êtes obligé de tourner la tête, et puis pour tirer à l'arc, c'est impossible. Il faut les deux yeux. On m'a dit, hein, ce n'est pas une expérience personnelle, mais on m'a dit ça. Il faut absolument avoir ses deux yeux si on veut tirer à l'arc. Donc, ça veut dire qu'il ne pouvait plus se battre. Parce que moi, je me suis toujours demandé, mais quelle idée de crever les yeux aux gens ? C'est gore quand même, quoi. Bah oui, parce que en crevant un œil, il n'y avait plus de soldats. Ils ne pouvaient plus se battre. Et puis, ça restreint le champ visuel. Est-ce que spirituellement, ce n'est pas aussi ce que l'ennemi cherche à faire ? Restreindre notre champ visuel. Et nous rendre à moitié aveugles. Pour pas qu'on soit complètement dans le noir, qu'on ait l'impression d'y voir, mais qu'il nous manque des choses vitales. Bref, Saül se retrouve devant ces bandes de sauvages et il rentrait des champs et il dit « Ah non, 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 on va pas tolérer ça. » Ah, la bonne réaction. Saül, le nouveau roi, on va se battre. Ah, super. Et il a été fantastique, Saül, à cette époque, parce que il a réuni une armée, il a pris les ennemis en tenaille, ils ont été vaincus et le peuple a été libéré. Alors on va retrouver ce peuple la semaine prochaine. Parce que malgré toutes les bêtises de Saül, malgré tout ce qu'il a fait de travers, ce peuple a eu énormément de reconnaissance. Et ils ont demandé les ossements de Saül pour l'enterrer dignement, parce qu'il était resté sur le champ de bataille. Reconnaissance, parce qu'ils se rappelaient du jour où ils ont eu la vie sauve à cause de Saül qui s'était bagarré pour eux. Pourtant, il sortait de ses champs, il n'avait pas trop envie, mais il l'a fait. Vous voyez, toujours, on est toujours dans la guerre. Saül s'est battu pour délivrer ce peuple. Alors Saül, lui, il a dû apprendre à se battre très vite, mais c'était un bon soldat. Et malheureusement, très vite, il a manifesté son intérêt pour le butin, plus que pour la guerre. Ah, à cette époque-là, le butin, c'était pas rien. Hein. Quand les armées étaient vaincues, ils laissaient tout, hein. tout, leurs chevaux, etc. Et le butin, c'était intéressant parce qu'il y a des rois qui, contre la vie sauve, étaient prêts à donner des grosses sommes d'argent, etc. Malheureusement, Saül a très vite été intéressé plus par le butin que par la guerre. Et je pense que nous aussi, quand on fait la guerre, on ne cherche pas seulement à réussir, mais à obéir à Dieu. Seigneur, je veux chasser ça de ma vie, non pas pour être bien, pour me sentir bien, mais parce que je veux t'obéir. Et c'était le fils Sandford, donc ce, de la maison d'Élie, qui a fait Marc, son autre frère qui a une église aux États-Unis, qui j'ai entendu un de ses messages il n'y a pas très longtemps, où il disait, vous faites la maison d'Élie, vous faites de la relation d'aide, c'est pas seulement pour vous sentir mieux, c'est pour être plus à même de bénir les autres d'aider les autres. C'est pas seulement pour vous. Et je crois qu'il faut pas, quand on se bat, regarder que le butin. Je vais gagner des esclaves, je vais gagner de l'argent, je vais gagner du matériel, etc. Mais aussi pour me mettre au service des autres. C'est pas juste pour me sentir bien. Et il disait dans sa prédication, j'en ai marre des gens qui veulent guérir juste pour se sentir bien. Ah, ça en fait partie. Mais c'est pas le but final. Le but final, c'est de vivre à la gloire de Dieu. Il nous a créés pour qu'on le loue, pour qu'on vive à sa gloire. Donc c'est important qu'on soit guéri, oui. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc je suis guéri pour me mettre au service des autres aussi. Donc c'est pas le butin qui est le plus important, même si Dieu permet qu'il y en ait. Et Saül très vite a compté sur la présence du prophète plutôt que sur l'aide de Dieu. C'est le prophète, il va prier. Pourvu qu'il soit là, on va avoir la victoire. Non. Ça suffit pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que son cœur soit dirigé vers le Seigneur. Le prophète Samuel n'était pas un porte-bonheur qu'on emmenait sur le champ de bataille. Attention à tout ce côté superstitieux. Dieu veut notre cœur, pas des choses extérieures. Et puis on arrive au deuxième roi, donc on va travailler à partir de la semaine prochaine, David. David, le pauvre David, il va récupérer les ennemis qui n'ont pas été vaincus par les premières générations. Et ça, c'est un aspect douloureux. J'ai dit que les premières générations ont béni leurs enfants, ils les ont protégés, mais s'ils ne se sont pas battus, ils ont laissé à leurs enfants des ennemis à combattre. Soit des problèmes héréditaires, soit toutes sortes d'ennemis, des alliances qui sont mauvaises. J'écoutais récemment un reportage où une personne se plaignait que son père, en mourant, avait laissé 250 000 euros de dettes qu'elle a dû payer. Voilà, attention de ne pas laisser à nos enfants des batailles perdues ou même pas combattues. Attention. Quand on combat pour eux aussi. Et on va leur laisser quelque chose derrière. Soit des nouvelles batailles, soit parce qu'on n'a pas géré son esprit de colère et du coup, il s'est passé de génération en génération, soit parce qu'on a fait des alliances qui ne sont pas bonnes et ça va descendre. Attention, David va récupérer tous les ennemis que Saül n'a pas chassés. Et vous allez voir, il en a eu beaucoup, le pauvre David. À peine arrivé, c'était déjà la guerre. À peine couronné, et c'était de nouveau la guerre. En plus, la guerre intérieure, puisque les Israélites, qui étaient restés, certains, pour Saül, continuaient à lui en vouloir. Donc ça a été chaud pour lui, ça a été dur. Mais heureusement, Dieu était avec lui. Donc, en vous battant, vous donnez l'exemple. Hein. Mais vous laissez aussi un terrain plus favorable aux générations suivantes. Donc, même si vous êtes deuxième, troisième, quatrième génération, il faudra vous battre. Pensez à la génération suivante. Et je pense que, souvent, des gens qui connaissaient bien mes parents me l'ont dit, vous êtes au bénéfice de tout ce que vos parents ont gagné. Et il n'y a pas seulement l'exemple, il y a aussi tout ce qu'ils ont gagné comme bataille qui ont été, sur lesquelles moi j'ai pu construire d'autres choses. C'est pour ça, je dis toujours aux gens, je n'ai aucun mérite. Parce que j'ai eu des parents, première génération de chrétiens, qui étaient super engagés avec le Seigneur et qui m'ont montré la voie. Le seul mérite, ça a été de continuer à alimenter le feu. Avec l'aide de Dieu. Mais franchement, vous, les deuxième, troisième génération, vous n'avez aucun mérite si vous en sortez bien. Dites-vous bien, tout comme moi, parce que vous avez déjà reçu un bon terrain. Par contre, sur ce terrain, il faut construire. Et il faut essayer de faire mieux que ses parents. Il faut essayer que la troisième, quatrième, cinquième génération fasse encore mieux. Parce qu'elle construit sur déjà un bon terrain. Un terrain qui a déjà été débroussaillé, on a enlevé les souches, on a enlevé les mauvaises herbes, etc. Eh bien, on construit dessus. Et on en profite. Et c'est ça aussi le message aux nouvelles générations. Profitez de ce qui est acquis pour construire mieux que vos parents. Non pas dans l'esprit de compétition, hein, par pitié, ce serait l'esprit du monde, mais dans l'esprit de dire « je vais pouvoir aller plus loin, plus tôt, plus vite, parce que le terrain était déjà débroussaillé ». Vous savez, je pense à... Il y avait une dame, une vieille dame à côté de la cantine, quand j'ai créé la cantine dans mon village, elle habitait juste la maison à côté. Et puis, comme elle n'était pas riche du tout, souvent, je m'arrangeais pour qu'elle puisse récupérer ce qui n'avait pas été ouvert. Elle m'a fait visiter son jardin. Oh, mais la honte, quoi. Moi, j'oserais plus jamais montrer mon jardin à quelqu'un quand je vois le sien. Toute petite, cette dame, mais toute fragile, elle avait un jardin, il n'y avait pas une mauvaise herbe. Alors, il faisait à peu près toute la longueur jusque là-bas. Il n'était pas très large. Il allait jusqu'au bout là. Il n'y avait pas une mauvaise herbe. Et je dis, mais il y a quelqu'un qui vous fait votre jardin? Oh non, non, je ne pourrais pas. Mais comment vous faites? Elle me dit, ben voilà, plusieurs fois par jour, je sors, je vais prendre l'air et je vois une petite herbe et je l'enlève. Je vois un petit pissenlit qui pousse et je l'enlève. Je vois un bouton d'or et je l'enlève. Et je fais ça depuis des années. Waouh! J'étais restée admirative en me disant, ah là là, si je pouvais faire ça, c'est incroyable. Mais son terrain, c'était mieux que dans une jardinerie, quoi. Il y avait vraiment rien. Tout était bien aligné. Les carottes, les tomates, pas un poil de mauvaise herbe. Waouh! Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle sortait, elle enlevait. Elle entretenait, ça s'appelle, hein, entretenir son jardin. Alors, ne venez pas voir le mien, parce que c'est pas le cas. Mais franchement, ça m'a beaucoup parlé. Si on le fait à chaque fois qu'on va prendre l'air, si chaque jour on entretient son jardin, eh ben, il est impeccable. Et j'imagine, je crois pas qu'elle avait d'enfants, mais imaginons que ses enfants aient pris ce jardin. Ben, s'ils voulaient le garder dans le même état, il va falloir faire la même chose. Aïe, 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 aïe. C'est l'entretien, le problème. Parce que vous savez, le problème d'un jardin, et c'est pareil avec notre cœur et notre vie, le gros problème, c'est que vous avez beau faire comme ça. Alors, vous avez plein d'ennemis, c'est les cananéens du jardin, ça. Le vent qui amène les trucs de pissenlit, là, les graines d'ortie, etc. Le vent, les oiseaux, mais oui, ils vous larguent plein de trucs quand ils viennent dans votre jardin. Moi, c'est comme ça que mes parents se sont retrouvés avec des magnifiques pavots. On n'utilise pas, mais... des oiseaux, les insectes. Ben oui, en se baladant, ils ramènent des trucs avec leurs pattes. Tous les animaux, les hérissons, etc., ils ramènent des graines. Alors là, vous avez des cananéens partout. Hein, puis on ne va pas les chasser, ceux-là. Et du coup, le jardin, ben, on n'a rien de temps. Il se retrouve rempli de mauvaises... Laissez un jardin comme celui de cette dame. Une saison. Puis vous verrez, vous revenez à la fin de l'automne. Eh oui, et je trouve que ça aussi, c'est un truc qui est dur dans la vie chrétienne. Veiller et prier. Prier sans cesse. Oh. Alors là, les nouvelles générations, non, oh, on prie le dimanche, c'est bon, hein? Eh ben oui, non. Parce que justement, c'est beaucoup plus facile à entretenir notre vie spirituelle si on prie sans cesse. Ça va être difficile s'il faut... Oh là, récemment, moi, j'ai laissé pousser un... C'est quoi? Un frêne. Purée, mais il n'y a plus moyen de le déraciner. Alors que quand vous les prenez dès la première année, vous tirez, clac, ça vient. Mais là, maintenant, il est comme ça. Ben voilà, il faut encadrer le scie et puis qu'on pioche pour enlever la racine. Oh, la plaie. Ben oui, parce que c'est comme ça en la vie chrétienne. Si j'arrache tout de suite, c'est bon. Si je laisse pousser, ben, mes cananéens, ils vont prospérer. Ah là là, et Dieu va combattre avec David. Dieu va convaincre avec David chaque fois qu'il va mettre sa confiance en lui. Et les mêmes choses, vous allez voir, donc dans les prédications qui suivent, les mêmes choses vont s'appliquer pour David. Rébellion ou désobéissance. Oh, le grand roi David, il a désobéi? Non. Et pas qu'un peu, hein? Parfois, je me demande s'il n'a même pas désobéi plus que Saül à certains égards. Mais lui, il savait demander pardon. Et tout le secret est là. Dieu ne demande pas des gens parfaits. Il demande des gens qui savent demander pardon. Demander pardon. Et alors, il avait eu ça lui aussi. Désobéissance, ruine, repentance, rédemption et repos. En plus des attaques classiques, il avait aussi les Israélites, donc ça a été dur. Mais il a toujours suivi ce schéma. Il est rentré dans la repentance. Et alors, je vais peut-être un peu vous décevoir avec les messages sur David, parce que côté famille, aïe, 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 David. Mais il a toujours su demander pardon. Mais il est plutôt un contre-exemple, mais c'est bon aussi les contre-exemples parfois, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et ça va être un petit peu décevant. J'appréhendais un peu de faire cette série sur David parce que justement il y a tout cet aspect, parce qu'on aime bien David et Goliath, on aime bien David quand il gagne la bataille, mais on aime beaucoup moins David quand il gère le problème d'Absalom et qu'il se plante complètement. L'alliance de Dieu reste, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, mais vous ne concluez pas d'alliance avec les habitants du pays et renversez leurs autels. Réfléchissez à ce que ça veut dire chacun dans notre vie. Quels sont les autels que je dois renverser? Quelles sont les choses du monde dont je dois me séparer? Quels sont les Cananéens que je dois chasser, sachant que ce n'est pas des gens, mais ce sont des choses que le diable a mis dans nos vies. Saül, il a fait des tas de compromis, jusqu'à consulter une voyante, ça c'est inimaginable. Il va mourir, on l'a vu la dernière fois, il va mourir dans la bataille. Mais ce qui m'ennuie chez Saül, réfléchissez. Qu'est-ce qui est mort avec lui dans la bataille? Jonathan, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, fidèle compagnon de David, qui a été proche de Dieu toute sa vie. Et pourquoi? Parce que la génération précédente n'a pas fait son travail. Si vous y réfléchissez bien. Il s'est laissé entraîner, il a entraîné son fils avec lui. Ce qui fait que les générations suivantes, elles sont au bénéfice de nos victoires. Elles sont aussi, malheureusement, elles souffrent aussi de nos échecs. C'est la vie. Mais tournons-nous vers le Seigneur pour que vraiment les générations suivantes soient au bénéfice du maximum de victoires dans nos vies. Parce qu'elles vont payer le prix de nos compromis et de nos désobéissances aussi. Donc attention à notre bataille à nous. Et rien que pour ça, soyons fidèles dans la bataille. Pensons à nos générations suivantes. Et vous, les nouvelles générations, les 2, 3, 4e générations, peu importe si vous êtes âgés, mais si vos grands-parents ou arrière-grands-parents étaient déjà chrétiens, on a une grosse responsabilité. Profitons du terrain qu'ils nous ont laissé. Et puis, veillons et prions. Lisons la parole de Dieu. Qu'on ait quelque chose de première main. Vous savez... Ça me fait penser aux pélicans, ça c'est assez dégoûtant. Les pélicans, je crois qu'ils avalent la nourriture, ils la mâchouillent, ils la bêtent là, puis ils la recrachent dans la gorge de leur petit. Bouh. Alors, attention, la nouvelle génération, comptez pas sur le pélican, hein. Mais mangez par vous-même. Vous les plus jeunes, là, 12 ans, 13 ans, 14 ans, lisez la Bible par vous-même. Si vous voulez être une génération de vainqueurs, et une génération qui ne se contente pas du crachouillis de vos parents, mais qui vont vraiment vivre avec leur carte de crédit avec le Seigneur. Et vous aurez des victoires, seulement le prix à payer, veiller et prier. Je suis désolée, c'est la vérité, on est obligé de le dire. Mais vous ne regretterez pas, parce que ça rend quand même la vie intéressante, même si parfois elle est un peu fatigante.
Juste pour voir si vous avez bien suivi, j'ai vu que personne ne dormait. Les trois ennemis, c'est lesquels alors, nos trois ennemis ? Satan ? Pardon ? La chair et le monde. Ces trois ennemis renvoient à trois domaines. C'est lesquels les domaines ? Satan s'en renvoie à quel domaine ? Domaine spirituel ? On est d'accord ? Satan, on ne le voit pas. C'est un esprit spirituel. Deuxième domaine ? Charnel, c'est quel domaine ? C'est l'âme, c'est psychique. Et le troisième domaine ? Le monde ? C'est quel domaine ? Le corps. Le corps, pourquoi le corps ? C'était un peu plus difficile à trouver. Je prends juste un exemple. La Russie, quand la Russie était communiste, c'était le communisme, qui aujourd'hui en Chine, c'est encore communiste. Les chrétiens doivent vivre underground et doivent vivre en souterrain parce qu'ils sont persécutés. Le communisme persécutait les chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu le mur de Berlin qui est tombé en 1989 ? Il y a eu une ouverture, liberté. Le christianisme, tout de suite, a été accepté parce qu'il y avait une soif en plus. Les Russes sont orthodoxes, enfin voilà, ils ont toujours resté orthodoxes, etc. Est-ce que le christianisme est resté en Russie ? Oui, non ? Je vais m'adresser à la Géorgie là-bas, je parle souvent avec Anaït, ils sont horrifiés. Voilà, traditionnel. Voilà. Donc non, la réponse est non. Et pourquoi ? C'est intéressant parce qu'un jour, avec Michel, le dimanche après-midi, on a regardé un documentaire, la BBC, ils font des bons documentaires, et c'est un journaliste non chrétien, hein, BBC, bon, il peut y avoir des chrétiens, mais c'est pas toujours le cas, un non chrétien. Et il a fait une enquête en Russie. Il a fait une enquête. Vous savez ce qu'il a trouvé dans son enquête ? Très documenté, hein, c'était un film documentaire, il durait, je sais pas, plus d'une heure et demie, deux heures. Lui, il voulait savoir pourquoi le christianisme n'est pas resté après l'ouverture, etc. À votre avis ? Le matérialisme. Voyez-vous ? C'est à cause du matérialisme. C'est pour ça que je parle du corps. Hein, voilà. Le matérialisme. Parce que quand l'ouverture s'est faite, à qui ça a profité l'ouverture ? Au capitalisme, le communisme, capitalisme. Okay, le capitalisme s'est engouffré là-dedans. Les Américains, ils ont inondé les McDo. Je n'ai rien contre les McDo. Hein. Bon, je préfère des restaurants un peu plus relevés, mais bon, voilà, ça nourrit. McDo, machin, enfin, tout ce qui est aux États-Unis, ça fait effectivement la fortune du capitalisme. Et ça a pris racine. Il y a eu un engouement. Pour le matérialisme. Quand Michel disait aujourd'hui, notre monde, on vous fait les pubs, votre bien-être, c'est quoi le bien-être ? Voilà, c'est être bien dans sa peau, profiter, etc. C'est le matérialisme, c'est le corps qui doit être bien. Voyez. Voilà, je ferme la parenthèse pour montrer qu'on est tout à fait dans ces trois ennemis. Hein, qui sont là. Et donc le spirituel, et il y a beaucoup de spiritualisme aujourd'hui, beaucoup d'ésotérisme, beaucoup voilà, aujourd'hui vous faites plus peur aux Français en leur proposant des spiritualités alternatives. Il faut surtout pas parler du christianisme, celui-là fait 2000 ans qu'on en a bavé, mais le spiritualisme hindou, bouddhiste, tout ça, sont les bienvenus. L'âme, renoncer à la chair, c'est un problème. Donc, les trois solutions sont de quel ordre ? Spirituel, c'est quoi ? Les trois ennemis, c'est Satan, la chair et le monde. Les trois domaines sont le spirituel, le psychique et le physique. Et les trois solutions que Michel vous a développées ce matin, c'est un, pour le spirituel, c'est quoi ? Hein ? Hello ? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien sûr, c'est connaître Dieu au travers de la parole. Hein ? Mais c'est la parole. Dieu a dit. Satan dit, est-ce que Dieu a dit ? Et c'est le serpent. Le serpent dit, est-ce que Dieu a dit ? Donc si vous ne connaissez pas la parole par vous-même, les nouvelles générations, forcément vous êtes vulnérable à souhait. Ça c'est le spirituel. Le psychique, quelle est la solution au psychique à l'âme ? Quelle est la solution ? Oui ? Il y a juste un mot. Elle est derrière moi. Enfin, elle est cachée par le... C'est la croix. C'est la croix. Demandez à Laurence Pépin, elle connaît, elle a été formée à Porte Ouverte, moi j'y étais aussi. C'était la croix. La croix. La croix. Et encore la croix. La croix, c'est la seule solution pour l'âme. Et pour le corps, quelle est la solution ? Pour résister au matérialisme, pour résister à toutes ces pubs, pour résister à toutes ces... Voilà, tout ce qui vous pousse à s'occuper de votre corps. Ah, là, je vous ai piégé, là. Mais c'est une application de ce que Michel vient de vous enseigner. Je recommence. Ah, la parole de Dieu, il est écrit. Jésus a dit, il est écrit devant Satan. Et Satan est parti. Deuxièmement, la croix. Et encore la croix et toujours la croix. Et troisièmement, contre le matérialisme, c'est Romains 12. Il y en a qui connaissent Romains 12 ? Verset 1 ? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas aux pubs. Ne vous conformez pas à la puissance de ce siècle qui vous pousse s'occuper de votre corps. Mais soyez renouvelés, transformés, tout ce que vous voulez, comme mot, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu vous donne une intelligence pour ne pas tomber dans le matérialisme, mais pour que vous puissiez résister. Résister au diable, résister à la chair, résister au monde. Amen. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre en pratique pour que ce message de Michel ne tombe pas à plat. Il était très bien dit, et je remercie le Seigneur des dons qu'il a donnés à Michel pour l'apporter. Mais maintenant, c'est à nous de le mettre en pratique, et surtout la génération des quadras, qui est la deuxième génération de cette Église, qui a besoin de mettre en pratique spirituellement, psychologiquement et corporellement ces enseignements, de manière à ce que cette Église puisse vivre, et pas vivre la République, mais vive l'Église d'Aubergenville. Amen. Voilà. Je vous convoquerai en février un temps de repentance, parce que je pense qu'il faut qu'on recommence cette nouvelle génération avec la repentance, repentance corporelle, repentance de l'ensemble de l'Église.